aujourd'hui une tempête bien managée qui atteint ses objectifs.
À vos postes, de TSS, j'entends, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant.
Oui, c'est Thomas de Hambourg. Encore on s'empête sur les planches et on vous présente aujourd'hui la nouvelle pièce de Gilles Saint-Pierry qui s'appelle Animal Manager et qui va être à l'affiche très bientôt. Hein? Très bientôt. Après-demain, je crois. Et du 31 janvier au 4 février au Théâtre Le Colombier à Bagnolet. Quitter cette musique un peu menaçante dans son attitude, un peu, oui, c'est Sounds and Whisper from the Crystal Forest, mais voilà, et c'est une composition de Yassen Vodenicharov, un compositeur bulgare qui réside pourtant à Paris, et voilà, dans Animal Manager de Gilles Saint-Pierry, on rencontre aussi l'esprit des forêts. Voilà. Maintenant, Tempête sur les plans, je vais commencer. Je me présente le metteur en scène, l'auteur et les deux interprètes. Ça fait quatre, mais ils sont trois autour de la table, puisque Gilles est à la fois auteur et metteur en scène de la pièce. Merci d'être venu. Bienvenue au studio Louise Michel de Radio Libertaire. Et dites-nous un peu de quoi il s'agit dans Animal Manager. On commence par là.
Hein? Bonjour, merci Thomas de nous accueillir. Là, on sort là des répétitions. On va jouer mardi. Le texte Animal Manager, le projet de départ, c'était écrire un texte sur l'entreprise et sur les outils, les nouveaux outils du travail. C'est un texte que j'ai écrit d'abord une première partie en 2016. Et que j'ai ensuite ressorti après le confinement et à la relecture du texte et des événements de l'actualité, de la transformation du monde, j'ai eu envie de retravailler. On avait aussi le désir de travailler avec Fabrice Clément qui est l'interprète, un des interprètes du duo. Donc on s'est remis au travail d'abord pour deux lectures publiques, parce que j'aime bien terminer les textes, j'ai toujours une première proposition écrite. Mais pour moi, l'écriture théâtrale, elle est composée aussi avec la constitution des équipes et le travail du plateau. Et j'ai terminé le texte en préparant les lectures publiques, d'abord au Théâtre de Bagneux, au Festival Auteur en Acte, ensuite au Colombier. Et nous sommes là à 12 jours des premières représentations.
Alors, Gilles, tu nous rappelles déjà où se trouve le théâtre du Colombier, comment est-ce qu'on y va ?
Je t'ai pas entendu, Thomas.
C'était juste pour savoir, pour nous expliquer comment on va au théâtre Le Colombier.
Ah, théâtre Le Colombier à Bagnolet, métro Gallieni, ensuite 5 minutes à pied. On peut venir aussi à pied de la porte de Bagnolet, voilà.
Alors, Animal Manager pour le bien-être illimité, c'est quoi ce slogan ? Alors, on est dans un monde un peu de, je sais pas, des assurances, quelque chose comme ça ?
Oui. Bon, en tout cas, ce qui était intéressant, c'était la théâtralité de la formation professionnelle, du management. Dans cette théâtralité, il est demandé aux employés d'investir des rôles, voilà, de créer des comportements efficaces à la vente et tout ça, et avec les outils souvent du bien-être et du développement personnel. Donc le bien-être illimité, c'est toutes ces techniques qui aident à la performance du salarié. Mais c'est aussi la contradiction d'une société où on utilise le luxe et le bien-être pour notre confort, pour en visant le bonheur. Et finalement, qui deviennent souvent des outils de surveillance, des outils de stress ou d'aliénation.
Alors, je ne sais pas si on a déjà présenté Céline. Céline, parce que c'est un duo, c'est un couple sur scène, Céline Magri, bienvenue.
Merci.
Aussi. Et donc toi, et entre toi et Fabrice Clément, c'est un vrai ping-pong, l'homme, la femme, qui sont à la fois un couple, qui vivent chez eux à la maison, qui sont en même temps dans un lieu de formation et comme en même temps dans leur entreprise, en même temps sous une surveillance, sous un contrôle total. Et c'est une vraie dystopie, contemporaine, une dystopie un peu insidieuse dans laquelle nous vivons, en quelque sorte, peut-être sans toujours nous en rendre compte. C'est une pièce qui va droit dans le mille de notre monde contemporain, dans un des grands mots, M-A-U-X, bien sûr, de ce que nous vivons. Et j'ai récemment lu un texte où quelqu'un disait « Oui, le monde entier est devenu une dystopie, déjà, et il n'y a que vous en Europe qui vous rendez pas compte », quelque chose comme ça. Mais c'est vrai, quand on travaille aujourd'hui dans une entreprise, la première chose, c'est déjà le fait que la frontière entre le travail et la sphère privée s'efface de plus en plus. N'est-ce pas ? Je crois que ça parle aussi de ça.
Il y a un travail. En commençant à écrire, moi je navigue avec plusieurs outils. Ce que j'ai retenu, c'est toutes les notions de temporalité, notamment pour composer le comique de situation, parce que c'est une pièce comique. J'ai toujours besoin du rire, moi, mais un rire qui a rapport toujours à l'inconscient, toujours à essayer d'éclairer des matières, des substances qui sont endormies, invisibles, qui sont éteintes. Et c'est la temporalité, la différente temporalité des deux personnages, la temporalité de l'autre, et la temporalité des machines, la temporalité des process aussi, avec laquelle s'est construit le rire, c'est-à-dire des hommes qui sont obligés de poursuivre des process qui ne comprennent plus, des stratégies qui s'immiscent dans les familles, dans les foyers, autant que dans l'esprit du travail. Des stratégies un peu comme des virus qui font que l'être humain ne trouve plus de sens à son projet, en tout cas ne peut plus suivre une ligne d'attention à l'autre.
C'est vraiment satirique comme écriture. C'est comme aller au-delà de toute cette nouvelle langue des managers. Mais en même temps, il y a une poésie. Et ça, c'est très étonnant que tu peux retourner cette dystopie comme ça pour en tirer quelque chose qui est quand même poétique.
C'était l'éclairage toujours de ces endroits invisibles chez l'être humain, en considérant que tout ce qui est process technique qu'on impose à des personnes fait que la vie intérieure est bien plus riche que ce qu'on voit. Donc la pièce, elle est construite sur cette vie intérieure des personnages. Cette vie intérieure, c'est les moyens de vivre, les signes de vie qui essayent de résister à cette pression du management. Et c'est aussi la poésie, c'est-à-dire l'échappement, la sensation d'échappement onirique face à ce lieu très, très clos du bureau et à des relations qui fait qu'on commence à délirer le monde parce que l'être humain a cet espace intérieur qu'il ne peut plus exprimer dans la réalité de l'entreprise.
Alors il y a elle, il y a lui sur le plateau et ça s'appelle Animal Manager et le manager est un animal. Ça, c'est sûr, c'est une mise en forme, finalement, des instincts, des pires instincts, souvent, pas toujours, mais souvent. Et en même temps, vous êtes peut-être aussi deux animaux, je sais pas, vous êtes à la fois l'un contre l'autre, avec l'autre. Vous êtes un couple, il y a les questions de sexe aussi, et cette animalité. Mais qu'est-ce que vous êtes, en fait ? Machine, animal, humain, algorithme.
On s'est amusé justement à voir à quel moment des personnes comme ça qui veulent devenir infaillibles, toujours positifs pour défendre l'entreprise, comment à un moment ça crée aussi des failles chez les personnes, comment toute cette machine bienveillante qu'on crée, tous ces objets connectés qui nous aident à vivre, finalement ils annihilent des choses de notre propre corps et comment à un moment ça explose quand même, heureusement peut-être, à l'intérieur. Et voilà, on s'est amusé à ça, enfermer ces deux êtres un peu comme des souris de laboratoire. Le dispositif scénique rappelle aussi un peu ça, on est vraiment comme enfermé dans un bureau. On n'est pas forcément un couple au départ, en tout cas on est effectivement un homme, une femme dans un bureau. On ne sait pas si l'histoire intime est précédente à ça ou naît de cette relation dans ce bureau. Mais
Ouais, à la base c'est vraiment une formation, c'est-à-dire que mon personnage arrive pour un peu être remis en état de fonctionnement parce qu'il n'y arrive plus du tout. Enfin en tout cas il n'arrive plus à suivre. Il est en procès avec une cliente, la cliente numéro 6. Et donc il arrive à cette formation, il rencontre cette formatrice. Alors effectivement, on ne sait pas est-ce qu'ils se connaissent ou pas, est-ce qu'ils se sont croisés dans les couloirs, parce qu'il y a... Il y a à la fois le bureau dans lequel on évolue, mais il y a aussi autour ce qu'on appelle le couloir, qui est un espace où on passe, où les mots se passent aussi, sont diffusés de bouche à oreille. Et donc on les suit à travers toute une séquence, différentes séquences, qui explosent un peu la temporalité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si tout ça est dans une continuité, si la formation dure 3 mois, 6 mois, 1 an, si ça dure une semaine, mais on les retrouve à chaque fois dans des situations où on peut supposer qu'il s'est passé, des choses avant. Mais,
ouais. Non. Ah, vous parlez beaucoup de temporalité, on peut parler de ces formations bidons, je ne sais pas si tu en as fait. Scène 2, acte 1, là ça commence dans votre brainstorming, la notion d'espace professionnel ouvert s'adresse directement au corps, mais depuis ma mutation, vous préférez utiliser la dénomination fichier de réalité plutôt que objet client. Pour quelle raison ? Elle, parce que ton corps est une bombe à retardement, tu l'as dit toi-même à l'infirmière. Mais on est totalement dans l'absurde aussi.
Oui, dans l'absurde, mais aussi dans le langage. Comment à un moment l'entreprise développe un langage très particulier, impose un langage aux employés qui n'est pas le langage, leur propre langage, le langage de leur corps. Et il y avait eu aussi ça bah, par rapport au procès Orange, des suicides Orange, où en fait ils ont vraiment un langage qu'ils leur est appris, qu'ils doivent utiliser pour communiquer entre eux dans l'entreprise. Et comment c'est déjà une aliénation d'utiliser ce propre langage. Et il y a effectivement lui, donc le personnage masculin, qui lui développe tout à fait un autre langage très très poétique et qui vient un peu parasiter tout ça, qui essaye d'utiliser ce langage très formel de l'entreprise, mais qui a quand même du mal, qui a besoin de temps en temps de s'échapper par de la poésie.
C'est une putain de langage managériel que vous n'êtes même pas censé connaître, puisque vous êtes censé faire de l'art, sauf si Gilles, effectivement, parce qu'il est pas seulement l'auteur, metteur en scène de la pièce, mais aussi directeur du théâtre, oui. Sauf si Gilles, dans ses méthodes de management, se sert de ces choses-là pour contrôler son staff.
Déjà, comme je disais, il y a la théâtralité des méthodes de coaching, parce qu'il s'agit de rejouer des situations, d'investir un personnage. Donc cette idée de la répétition et de la représentation, qui est permanente aussi dans notre société, aussi avec l'image et tout ça, c'est que c'est quelque chose qui théâtralement a été la base du projet, la base du jeu et de la mécanique comique. Après, la porte d'entrée, c'est aussi mon propre rapport au travail, c'est-à-dire des ambivalences. La pièce est toujours dans une contradiction, et les personnages représentent cette ambivalence. J'ai à la fois un chemin et un amour pour le théâtre et aussi j'ai reçu un enseignement qui fait que pour moi c'est un métier pour lequel il faut aller au bout de soi-même, il faut avoir beaucoup de rigueur pour travailler et en même temps mes idées politiques font que je peux me méfier énormément de tous les systèmes, toutes les méthodes. Donc dans la pièce il y a cette interrogation là de la méthode. On est à un métier où on fait énormément de formation. Pourquoi ? Parce qu'on est, on doit interpréter, entrer dans la peau d'autres personnages. Donc que ce soit en psychologie, en comportement, aussi en physicalité, en rapport à la langue, on fait beaucoup de formation. On étudie aussi la politique, la psychologie. Le tout est de garder un recul et de faire attention, puisque là on est encore dans ces notions de méthode, ces notions de choses éteintes qui commencent à encadrer des comportements humains qui sont imprévisibles. Donc je crois que cette pièce elle aide aussi de quelque chose de compulsif à me méfier des systèmes et de cette naïveté de la société dont avait déjà parlé Georges Perec dans Les Choses, à s'équiper d'objets qui nous promettent un bonheur mais qui ne fait que figer les choses, éviter la douleur, éviter le travail, éviter aussi le prix de la liberté. Et donc la pièce pose cette question-là.
Mais on parle d'un langage managérial qui s'infiltre partout, en même temps que la société se militarise de plus en plus. Bon, oui. Il y a ça aussi qui s'infiltre partout, tu le rencontres partout. Je me souviens d'une pièce d'un spectacle avec plein de journalistes dans un car pour aller voir un spectacle et c'est toujours organisé et donc il y a une jeune qui prend le micro dans le car et qui dit moi je suis Françoise, c'est moi qui vais vous manager aujourd'hui. Et alors le plus ancien entre nous journalistes il hurlait je veux pas être managé. Mais ce langage arrive partout.
Oui.
Et il y a du grotesque dans tout ça. Quand elle dit, comme toi, je ne sais pas toujours quels sont les véritables objectifs de cette formation, nous progresserons en duo avec au moins cette certitude, il faut vite réorganiser nos besoins en restructuration. Et il répond, vendre du vide et des assurances alors que rien n'est sûr avec cette terre. Une maladie, une dépression, et hop, tout s'efface dans le cerveau, le corps saigne et tu finis rempli de tuyaux dans le couloir d'un hôpital. Voilà. Mais Gilles, tu as étudié quoi ? Tu as pris quelques tutoriels de management pour écrire la pièce, pour te nourrir ? Ou tu as tout absorbé comme ça ?
Depuis le pisciniste d'Athènes, aussi Ulysse Ex-Promotion, qui traitait de la consommation, c'est vrai que je m'intéresse au pré-fascisme, c'est-à-dire au comportement de consommation, au comportement collectif, aux méthodes qui peuvent préparer à ça. Cela étant relayé par la machine. Après, je m'amuse poétiquement aussi, c'est-à-dire le langage, il y a le monde des mots et il y a la réalité. Et à chaque fois, les personnages jouent du langage comme pouvoir. ou s'interrogent sur le langage qu'on leur propose. La question est, pour celui qui est licencié, par exemple, suis-je dans la réalité ou suis-je quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire ? Donc le langage, il me sert toujours à parler de l'inadaptation et au grain de sable. C'est-à-dire les clowns, enfin moi je suis très inspiré par les clowns, par Chaplin, par Tati, c'est-à-dire le personnage inadapté, ce qu'il entend, ça lui paraît étranger. Et comme, comme il va pas savoir s'en servir, bon, par exemple dans les temps modernes, Chaplin, il va casser le rythme de la chaîne, parce qu'il va casser la machine, et ben ça lui redonne son temps à lui. Donc le comique redonne toujours aux personnages leur temps. Et c'est le temps de chacun qui n'existe plus avec ces machines. Vous voyez ? Oui. Voilà. Donc ça, c'est ce système toujours de l'inadaptation qui est porté aussi par le langage.
Donc les machines, les algorithmes deviennent Chronos. Donc tu l'as écrit en 5 actes avec intervention de l'esprit des forêts, donc comme un cœur. C'est un algorithme qui t'a suggéré ça ?
Non, c'est en fait, moi j'écris beaucoup à partir du corps. C'est-à-dire, je crois beaucoup à l'inconscient. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans la poésie, dans l'art, c'est de visiter les choses, de moi-même aussi, et qu'on continue à visiter les choses sur le plateau. Donc pour moi, c'est un geste. L'écriture est un geste, donc c'est comme un geste musical. C'est très inconscient au départ. Après, j'ai une méthode, bien sûr, et la structuration est importante pour accueillir. Je dirais que là, c'est écrit comme un rêve extraverti, hein, puisque les images se tordent de plus en plus, et que cet humour qu'on cherche ensemble, c'est d'essayer d'éclairer les choses qui ne sont pas visibles dans tous les comportements de burn-out, de stress, de suicide, parce qu'après, derrière la comédie, il y a un drame qui se prépare dans le rire et dans la bonne humeur. C'est comment nos corps sont et comment le stress devient et la fatigue mentale. Est produite par tous ces systèmes, quoi, et accélérée par la machine.
Ah oui, tu écris à partir du corps, mais là, c'est du corps à partir, ou comment dire, c'est la question, c'est l'effacement du corps, finalement, ou de l'individu. C'est là, quand on devient une sorte de machine, quoi. Ouais. C'est terrible, je veux dire, pour vous, comme comédien, a priori, vous êtes censé vivre totalement autre chose sur le plateau. C'est la négation même de ce qu'est un acteur au théâtre qui se transforme comme ça en cette robotisation, finalement.
Mais l'être humain la pièce est construite pour montrer que au milieu de cette machine, ce Deus ex machina théâtral, c'est l'être humain, c'est les failles, c'est les fractures, c'est la violence qui nous montre que l'être humain, de toute façon, même au milieu d'un système, enfin, on l'a vu au cours de l'histoire, c'est l'humain qui arrive toujours à... C'est cette réaction humaine qui est positive, et c'est ça qui est dans la pièce. Et c'est ça aussi l'animalité. Sur Animal Manager, j'étais parti d'une définition managériale qui signifie contrôler, manier, avoir en main, et de manège, au sens d'entraîner un cheval en le dirigeant avec la main. Un lien finalement évident au vu de ces managers au comportement de dresseur. Donc il s'agissait de dresser les gens. Ouais. Voilà, dresser les gens. Le leader doit s'adapter à l'animal qui se trouve en face de lui, comme il le ferait d'un de ses interlocuteurs. Ouais, il y a un rapport, voilà, toujours de dressage... Des comportements impulsifs. Et là, les deux personnages, comme je l'ai dit, comme ils sont inspirés du clown, on ne peut pas les dresser. On ne peut pas les dresser parce qu'ils sont inadaptés. Une, parce qu'elle est tellement fanat de management, tellement passionnée de management, qu'elle va droit dans le mur, et même tellement qu'elle en redevient humaine. Et puis l'autre, parce qu'il y a cette langue poétique qui le... qui lui fait délirer le monde, mais qui le décale complètement du réel. Et puis il y a tout le scepticisme. C'est pas un misanthrope, mais c'est aussi, voilà, tout le scepticisme qu'on peut avoir par rapport à ces gros mensonges de la restructuration. Et l'homme face à la trahison, c'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé 20, 30 ans dans une entreprise et qu'on lui propose ses slogans, ses langages juste pour dégraisser. Voilà, on a en tout cas ces deux figures-là, humaines.
Personne ne meurt dans la pièce, hein. Il n'y a pas de tragédie dans le sens où on sacrifie quelqu'un de son vivant ou des choses comme ça. C'est plus une avancée lente, collective, quelque chose. Quand même, ça fait beaucoup penser aussi à Huxley. Brave New World, tout ce contrôle et cette, oui, justement, la novlangue, ça devient réalité, là. Alors, vous pouvez...
C'est une vulgarisation de ça, ouais. Aujourd'hui, puisqu'on achète nous-mêmes les téléphones et les objets.
Oui. Oui, bien sûr. Les entreprises, on ne sait pas, il y a des fantasmes là-dessus, derrière tout ça, sur une organisation secrète, etc. Mais le fait est que, justement, c'est le capitalisme, avec ses méthodes de vente, qui sont bien explicitées dans la pièce, qui te fait acheter ce qui te détruit, finalement, en tant qu'être humain. Et en plus... Il te suggère que ça te procure de la joie et de la vitalité, alors que c'est l'inverse. Donc voilà, c'est quand même mieux de s'asseoir tranquillement, d'écouter Radio Libertin. c'est autre chose que taper sur son petit écran et regarder je ne sais pas quoi, là, Facebook, etc. Maintenant, vous avez un petit extrait un peu plus long de texte que vous pouvez nous faire entendre.
Bah oui.
Vous voyez les forêts ?
Ouais.
La voix des forêts, là. Celle-là, la 3 ?
La 3 de la 2. Ouais. D'accord.
Je suis désolée. Tu ne me reverras jamais. Je suis juste passée dans ta vie pour te faire signer quelque chose. Tu te souviendras de moi en passant des nuits à m'imaginer. Pour l'instant, nos deux corps sont immergés dans l'action de disparaître de toutes leurs statistiques.
Ici, il nous suffisait d'ouvrir n'importe quelle porte à l'aide de la télécommande et nous nous retrouvions ensemble dans l'open space. Une télécommande nous a téléportés un beau matin de la chambre à coucher au boulot. Cette télécommande, elle-même, nous reliait à un ordinateur de la direction, qui lui-même était connecté à nos téléphones portables. Nos gestes les moins fatigants étaient calculés par l'oreillette. Pas une journée qui se ressemblait. Juste relâcher la pression avec du sport au boulot ou des massages en ligne. Avec le deuxième code crypté, ta main pouvait programmer ou différer l'allumage des ordinateurs, avant même de te réveiller. Avant même que tu te dises vivement que les vrais clients arrivent.
On t'explique en ligne qu'une dépression, c'est juste à mettre en regard avec un certain surmenage. Après 45 minutes d'entretien, on a éliminé tes moindres possibilités de déplacement. Et dès le lendemain, tu restes dans le couloir, comme ces têtes de mort avec leurs bras. Nous n'avions plus d'autre choix. Chut, silence. Silence. Nous allons fermer les yeux et imaginer un beau paysage. Les plantes traversent le bois, et dans le bureau, les corps suicidés font des mouvements généreux. Le soleil brille, mais pas trop. Sur le bois, des coachs qui courent à poil vers la forêt profonde.
Un jour, les assurances que tu ordonnes commencent à faire effet de travers. Une programmation anatomique dirige et programme un organe dynamique à se modifier de travers. Ton client s'étouffe, le laboratoire se trompe d'ordonnance, et puis ils t'accusent tous. La haine s'entasse lentement dans ton corps comme un tas de poussière, et le courtier te souffle dessus comme un cyclope pour te licencier avec ton voisin. Quand toute cette merde aura charrié son lot de souffrances, comme un fleuve évacue sa décharge mondaine, nous partirons tous les deux. Oui, un miracle se produira dans nos corps, comme il ne s'en produit jamais qu'à la bourse. Ta poitrine se révélera de toute sa fragilité pour obtenir son objectif d'animal imparfait. Mais d'abord, contre toute attente, on se trouve soi-même dans cet abattoir destiné aux gens parfaits. La banque qui t'a soumise, elle s'en fout, elle n'existe pas. Il n'y a plus que toi, ici, derrière tout ça, à me voir courir tout nu entre les arbres gelés. Mais tu m'as déjà fait trop parler.
Chérie, chérie, vite, je ne me sens pas bien. Tu es parti où? Tu es là? Tu es où?
Voilà, c'était un extrait de Animal Manager avec Fabrice Clément et Céline Margueri, la pièce écrite et mise en scène par Gilles Saint-Pierry. On la verra au Colombier à Bagnolet à partir du 31 janvier. Donc ça commence après-demain à 19h30, mercredi 1er février à 19h30, jeudi 2 février à 14h30, vendredi 3 février à 19h30 et samedi 4 février à 19h30, et après on ne sait quoi, qu'est-ce qui leur arrive, ils ont été licenciés probablement, bon pif, ça y est, ils disparaissent, c'est quand même un acte de disparition. Donc, mais nous on continue après un petit moment là de musique quand même, dans Tempête sur les planches sur Radio Libertaire. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération Anarchiste avec Thomas Rambourg. Tempête sur les planches au sujet de Animal Manager pour le bien-être illimité de Gilles Saint-Pierry au Colombier de Bagnolet. Voilà, Animal Manager. Bon, on dit généralement que l'humain est un animal social, mais tout ça c'est en train de changer, ça se transforme, l'être humain devient un animal managérial. n'est-ce pas, une bête, une proie, une cobaye, une victime, et de l'autre côté, le manager bourreau qui a jamais travaillé dans une entreprise. Bon, on saura peut-être quelque chose et va se reconnaître un peu, va reconnaître son environnement quotidien dans ce qui se passe là, à moins que toutes celles et tous ceux qui écoutent Radio Libertaire aient réussi à faire leur acte de résistance et se refusent à ce monde-là, cet univers. Bon, Gilles Clément, et c'est donc une pièce maintenant très contemporaine. Il y a une poésie là-dedans, une poésie de la dystopie. On pense à Peter Handke aussi avec cette écriture. Mais aussi, c'est écrit en cinq actes comme une tragédie. Alors pourquoi, comment tu l'as articulé, pourquoi en cinq actes?
Donc, y a une mise en situation déjà théâtrale avec le public sur le premier acte, c'est la mise en place d'une formation en direct, la formation d'un employé qui décroche, qui est au bord du licenciement, qui est en burn-out. Cet employé va être présenté au public, présenté par sa formatrice, et sa formatrice va enclencher la formation au premier acte. Au deuxième acte, il va s'agir d'une mise en situation où cette personne va être mise à l'épreuve avec des techniques de coaching assez violentes, des accusations, voilà, on va tester un peu sa résistance. À l'acte 3, il y a une vie en commun où ils vont apprendre à se connaître, à partager des choses, autant la fête que des moments ordinaires. 4 et 5, je ne peux pas en dire trop, mais là, les situations se tordent, on a la folie, le délire, la confusion, et ensuite on a la libération, comment l'humain, cet animal devient un animal sensible, avec ses forces de vie, ses moyens de résister, une politique aussi qui agit avec le corps, et c'est la libération. Voilà, donc c'est structuré avec ce cheminement-là. Le spectacle aussi, le projet, quand j'ai décidé de le monter, enfin quand on a décidé de le monter, c'était un projet avec les interprètes, l'envie qu'on avait avec Céline Marguerite de travailler avec Fabrice, mais c'est aussi de réunir une équipe où tous les langages pouvaient agir. Donc il y a vraiment un travail d'équipe important avec la lumière, avec la scénographie, donc on a fait un travail assez long. Il y a quelqu'un qui collabore à la mise en scène avec moi, qui s'appelle Maxime Lévesque. La lumière, c'est Rémi Chevillard. Il y a Lucille Latour aussi, qui a travaillé sur les images et sur la collaboration à la dramaturgie. Karine Lombardo sur les costumes. Voilà, on a constitué tous ensemble une équipe. Qu'est-ce qu'on défend au Colombier ? C'est il faut, pour les écritures, pour que le texte théâtral, il faut ce travail au plateau qui accidente, qui est un théâtre aussi où on partage des idées politiques, on questionne le texte ensemble, et voilà, c'est ce qui fait la particularité du projet qu'on présentera mardi, et dont moi je suis très content de la rigueur et de la richesse de cette recherche. Là on lit des extraits, alors nous on ne joue jamais quand on n'est pas en situation, aussi pour préserver les acteurs, leurs gestes sur le plateau. Là, on va lire encore un passage. Fabrice, la lettre de licenciement, c'est ça ?
Lettre de démission. S'appelle des départs volontaires. Ouais. Ça, c'est comment on fait disparaître les gens par eux-mêmes. Ouais. Chers collègues, j'ai été au cours de ma vie très heureux de pouvoir évoluer fondamentalement avec vos formateurs et d'être à la fois l'acteur et le témoin responsable de ma dépression progressive. Mon stress a néanmoins permis des avancées non ordinaires dans la compréhension fondamentale de l'efficacité limitrophe. Et je suis devenu, à mon insu, une sorte de cas. De cas d'école.
Parle de ta condition d'ancien prolétaire. Tu as raison et insiste sur la notion de cas d'école.
Grâce à mon excellente formatrice, on connaît désormais les conditions initiales de la construction d'un système dépressif. Ces mêmes conditions qui me conduisent à cette rédaction sont simples et intimement liées à cette ultime formation. Nous sommes en moi plusieurs à batailler avec la cliente numéro 6, comme un ensemble de managers recomposés et détruits par échecs successifs. À vous maintenant d'essayer de faire comprendre à vos autres formateurs ce qui se passe en lui. Les autres, les suivants. Quel maillon suis-je pour prétendre transmettre aux suivants toutes ces longues courbes de stress incontrôlables ? Ceux qui vont encore bien ne se doutent de rien. On craquera tous un jour, ici ou ailleurs, mais de moi se sont dégagées des notions extrêmement concrètes de cet écroulement et je ne participerai plus à la célébration du suicide de vos employés modèles.
Qu'est-ce que tu écris bien les discours de réconciliation ? Si j'écrivais comme toi, je démissionnerais tout de suite. Fais-toi plus confiance et affirme ton argumentaire. Sois plus direct, plus violent avec la direction. Ils aiment cela, les suicidés qui s'affirment.
Je te prolonge ?
Ah ouais, prolonge-moi jusqu'à demain matin. C'est super ton écriture.
Voilà, c'était la démission, et puis c'est continuer un petit peu, bouge-toi, que ton bureau explose, que ta boule explose, leur jeu des chiffres est entré, en mon corps quelque part, ils me gênent leur jeu en moi, je lui vomis dessus moi aussi, je lui crache dessus comme toi, je voudrais qu'ils disparaissent de moi avec le paradis. Moi aussi j'en ai marre d'être normal, pauvre con, je voudrais te caresser, tu préfères devenir folle. Moi aussi je voudrais te toucher, mais je suis sale, crasseuse, de la merde partout, de la merde de manager partout. Voilà, bon, on a cassé la surprise de la fin, mais il faut quand même y aller là en Colombie. 14h45, on va terminer sur cet animal manager. Et ben, vous nous rappelez encore une fois comment on va au théâtre Le Colombier à Bagnolet.
Théâtre Le Colombier, 20 rue Marianne Colombier à Bagnolet, métro Gallieni, bus 318 122
76.
En voiture à porte de sortir à porte de Bagnolet.
En vélo.
Et sinon, toutes les informations sur notre site www.lecolombier-langaja.com.
Oui, oui, c'est, tu sors à Gallieni, tu sors du métro, tu passes devant le centre commercial, il est à ta gauche. Tu vas tout droit, jusque tu aperçois sur ta droite cette petite église de Bagnolet. Et là, tu tournes à gauche, pas vers l'église, évidemment. En sens opposé, à gauche, rue Anne-Marie Colombier. Et là, tu poursuis, tu tombes dessus. Bah, le Colombier, c'est pas celui de la Comédie Française, c'est celui de Bagnolet. Voilà. Alors, merci à vous d'être venus. Et animal manager à toutes et à tous. Et puis, à bientôt pour une nouvelle tempête sur les planches. C'était Thomas Dambourg sur Radio Libertaire. Et n'oubliez pas d'aller à la librairie du Monde Libertaire et la souscription, etc. Et aussi, il y a plein de manifestations, etc., à la librairie du Monde Libertaire, tous les mois, surtout les week-ends, mais les autres jours de la semaine aussi, des films, des lectures, des discussions, etc. Allez à la librairie du Monde Libertaire, au 145 de la rue Amelot, dans le 11e, au métro République, au Bacanf ou Fille du Calvaire. Voilà.
C'est ainsi que naissent les routes. Dans la nuit, mes pieds nus, la terre encore chaude du jour. Écoute, m'a dit mon père, et là j'ai su que ces mots seraient ses derniers. Ne doute pas, et il s'est tu, son regard, un dernier baiser. Sur mon front brûlant, j'ai gardé depuis la marque de ses lèvres, mon étendard scrute l'horizon. Je suis fils du vent qui se lève dans la nuit sans dire au revoir à mon frère, mes sœurs et ma mère. Je pars et dans mon cœur l'espoir pèse une plume, la peur une pierre. Mais je saurai me souvenir des promesses que je leur ai faites en rang serré, tous leurs sourires seront le feu de mon armée. Je marche, je me rapproche et je m'éloigne. Je marche, je cours, je rampe et quand je tombe, je me relève. Je marche comme un roi ou un empereur. Je marche. Je connaissais les premières lunes, l'eau trop rare que j'allais puiser, chaque rocher indiquant les dunes. Je les connaissais, mais après, j'ai dû affronter l'inconnu, la faim coriace et l'eau saumâtre qui donne des vertiges et tue, ou laisse le ventre dur comme du plâtre. Aux premières frontières barbelées, les langues se délient un peu. Partout je paye pour avancer, la marche arrière fait partie du jeu. J'ai travaillé à Damara contre des coups et des billets, me suis fait vendre à Shingeti le prix de quelques vaches à lait. De long en large, terres arables, 2 ans à faucher du maïs. L'esclavage, c'est toujours la même fable. Le riche fixe le marché. Et moi je marche, je me rapproche et je m'éloigne. Je marche, je cours, je rampe et quand je tombe, je me relève. Je marche, je suis un mythe qui se murmure. Fils d'Hannibal, j'ai franchi les sommets, mon courage en armure. Je marche, comme un roi ou un empereur. Je marche, qu'il neige, qu'il vente et quand j'ai peur. Je marche, et marche. Naguère, je suis parti naguère. J'ai presque oublié les visages de mon frère, mes sœurs et ma mère. Ne me demandez pas mon âge. Trop d'eau a coulé sur les ponts. D'Eldorado ont pris la flotte et de capitaine la fuite. Marins d'eau douce qui s'y frottent, transis de peur en fond de cale, m'ont juré avant d'y sauter qu'ils pourraient y marcher dessus. Mais la mer est une saleté, elle avale tout entre ses cuisses. Des derniers souffles au Ducador, et au fond marin ses coulisses s'étalent l'envers du décor. Sur le maigre raffiot parfois, combien sommes-nous, ne pas compter, ni sur la chance, ni sur mes doigts, et sur le pont pour oublier. Je marche. Je me rapproche et je m'éloigne. Je marche, je cours, je rampe et quand je tombe, je me relève. Je marche, je suis un mythe qui se murmure. Fils d'Hannibal, j'ai franchi les sommets, mon courage en armure. Je marche, comme un roi ou un empereur. Je marche, qu'il neige, qu'il vente et quand j'ai peur. Je marche, fixe du regard la ligne d'horizon, m'y accroche. Enfin je foule la terre d'Homère, croyant arriver à bon port. J'embrasse le sol, il est amer des rêves qu'elle a laissés au bord. La grande Europe m'ouvre ses portes, comme on baisse d'un doigt ses persiennes, la peur au ventre des cohortes qui pourraient lui saigner les veines. Je la laisse perdre la mémoire et tenter de la retrouver dans mon dos. Moi, je veux voir jusqu'où l'exil peut m'emmener. La Manche est maintenant derrière, mais pas mon menée à Glasgow. Mon armure en rouille à terre, je la laisse glisser en héros. C'est là que pour moi tout commence, que tout recommence, c'est certain. Les visages ressurgissent, mes sens reprennent vie, ça y est, j'ai faim. Je marche, je me rapproche et je m'éloigne. Je marche, je cours, je rampe et quand je tombe, je me relève. Je marche, je suis un mythe qui se murmure. Fils d'Hannibal, j'ai franchi les sommets, mon courage en armure. Je marche, comme un roi ou un empereur. Je marche, qu'il neige, qu'il vente, je n'ai plus peur. Je marche, fixe du regard la ligne d'horizon, m'y accroche parce que je sais. Je marche, je me rapproche et je m'éloigne. Je marche, je cours, je rampe et quand je tombe, je me relève. Je marche, je suis un mythe qui se murmure. Fils d'Hannibal, j'ai franchi les sommets, mon courage en armure. Je marche, comme un roi ou un empereur. Je marche, qu'il neige, qu'il vente, je n'ai plus peur. Je marche, fixe du regard la ligne d'horizon, m'y accroche parce que je sais qu'à l'avenir. Hey fils, où tu vas? T'aurais pas oublié d'embrasser ton papa? Allez, remonte ton bénard et boucle tes lacets. Tu sais, fils, un faux pas est si vite arrivé. C'est pas que je m'inquiète, mais t'es fait de mon sang. Et je m'en fais du mauvais. Allez, file. Mais par contre, je suis pas contre si tu reviens. Parce que ça s'apprend pas, ça, d'être orphelin de son môme. Faudrait pas que ça te retienne de devenir un homme. Mais comme ça, t'es au jus que je t'ai là, dans mes veines. Et puis, si t'as du linge à laver, c'est ma veine. Allez fils, prends la porte et va tracer tes routes. Sûr que t'en croiseras de belles. Et les soirs de disette, l'amour, c'est un casse-croûte. C'est pas une, mais cent vies qui t'apprendront le reste. Prends un vêtement de pluie pour les jours d'ennui, quand le ciel et ses larmes nous tombent sur la tête. Mais garde, garde le front en l'air pour voir quand vient la nuit, l'étendue du mystère. Fils, t'as le regard de ceux qui marchent sur un fil. Et y'a le soleil qui brille quand tu souris. On dirait qu'il fait chaud, même sous un ciel d'hiver. Est-ce que je t'ai déjà dit, fils, que t'es beau comme ta mère? Tes petits pieds qui valsent et tanguent et s'accrochent à la terre font des pas de géant. Fils, capitaine, debout, je te lègue le vent, la corde et puis les voiles. Va larguer tes amarres et faire tourner le monde un peu moins à l'envers que ne l'a fait ton père. Fils, si tu savais comme je suis fier, crois pas que ce sont des mots en l'air. Ou alors attrape-les et tu sauras voler.
Allez, fils, où tu vas ?
Bienvenue dans le monde merveilleux de l'entreprise à commande vocale numérique.
Pas beau, pas beau la vie. Trois mots, pas plus de trois mots. Pas beau, pas beau, pas beau.
La vie en rose.
Il est 8h, je prends mon poste. Monte sur mon fen et chausse mon casque. La LED s'allume, j'entends cette voix, pas un bonjour, pas un ça va. Commence comme ça.
Des 8, 12 colis.
Réponds, ok, pas bien le choix, si, pas compris, d'y répéter. Quand c'est chargé, je dis suivant. Je porte des caisses, des toutes petites et des moyennes, et puis des grandes. Pas dit que les petites pèsent moins que les grandes, et les moyennes plus que les petites. Je porte des caisses, et c'est tout, sur un chariot, c'est fou. Combien on est à se croiser sans même se voir, occupé à porter des caisses.
Bravo, bravo, bravo la vie. Trois mots, pas plus de trois mots.
Tire sur ma clope, tire sur ma vie. Mon collègue parle de ses migraines. Attends que ça passe, peur que ça revienne. C'est peu de mots, besoin de silence. Faut du repos dans les oreilles. Au self, menu. Pardon, vous pouvez répéter?
Bouillabaisse ou poitrine de porc. Café.
Ok, je paye. Et ça reprend Fenwick, et casque, et LED, et voix.
C'est 7, 7 colis.
Ok, je charge, suivant.
B12, 23 colis.
Répétez.
B12, 23 colis.
Répétez.
B12, 23 colis.
Ok, je charge, suivant. Je compte dans ma tête combien de fois je dis chacun de ces mots-là, mais perds le rythme, le manager me fait des signes.
Oh, vous êtes pas par la masse de flot, là. Au boulot.
Bravo, bravo.
Je garde mon fen, enlève mon casque et prends la tangente. J'arrive chez moi, l'heure des marmots.
Salut papa, t'as passé une bonne journée?
Sans réfléchir, je réponds ok. Ça veut rien dire, mais mon fils tique pas. Puis c'est les devoirs, apprendre par cœur Paul et Luard.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
Ok.
Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui,
ok, suivant.
J'écris ton nom.
Suivant, ok, suivant.
Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie.
16 colis.
Je suis né pour te
connaître,
pour te nommer.
Erreur, répéter, porte-monnaie.
Liberté.
Mot inconnu, mot
je
inconnu.
Je suis né pour te connaître.
Erreur, 404.
Liberté.
Mot inconnu, erreur, 404.
Mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette à faire la vinaigrette. Le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Again, I swear there's no. hit him, and it hit him so. Poor dunce, he pushed at the big man. The bombs laughed, the fool is dead. Poor dunce, he's less than within us. The brains talk, but the will to live is dead. And Fred Hand travels so far these days. The talk of your life standing so near to innocent eyes. Poor dunce, swings through the tunnels and claws his way. His small life so many.
Thank you. C'est pas régulier pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler, je suis un type papa, une graine d'ananas.
On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'âne. On me dit que c'est fini, je vous dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. De la belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Autant se double, l'oiseau fait son nid, messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine. Mais auparavant, j'aurais comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.
Baisse la manette et ma pauvre tête éclate en morceaux. Oh, d'un coup ça s'arrête, l'homme en blanc me jette pour payer ma peine des graines. On m'appelle José, je suis chimpanzé, je suis crucifié, lié par des fils, paraît que c'est utile d'expérimenter.